Livre des Actes. Comment composer avec les injustices? C'est un des sujets qu'on va traiter, mais je l'ai mis en bande dessinée. En fond, c'était pour les jeunes. Puis là, je vois qu'il n'y a pas grand jeune ce matin. Mais on est tous... Oui, on est tous quelque part enfants dans notre cœur. Alors... prenons ça comme un enfant. Et on pourrait prier que même si c'est des histoires comme ça, que ça paraît simple, qu'on connaît, le Seigneur les a gardées pour nous donner une leçon, pour nous enrichir, pour nous bénir. Alors, je vous invite à prier pour que le Seigneur nous parle. Seigneur grand Dieu, on vient devant toi, on a besoin de ton aide, on a besoin d'être rafraîchi par ta personne, par le Saint-Esprit. On a chanté un chant qui est inspiré par le nom de l'Éternel est une tour élevée, que le juste y trouve un refuge et sa sécurité. Seigneur, on invoque le nom de l'Éternel, le nom de Jésus, pour que tu nous parles ce matin, que tu chasses les distractions, toutes les préoccupations aussi qui nous distraient de ta personne, de ton appel, de tes attentes envers nous. Ramène-nous, Seigneur, surtout l'été, des fois, on est facilement distrait par plein d'autres affaires. Et on demande une touche de ta personne, que tu nous rejoignes par ces enseignements, par ces histoires de la Bible que tu nous as préservées pour nous. Fais-nous du bien, Seigneur, parce qu'on te le demande dans le nom de Jésus. Amen. OK. Fait que ce que j'aimerais qu'on regarde, c'est l'histoire d'Étienne. Dans le fond, il y a différentes histoires que j'aimerais qu'on regarde. Étienne, c'en est une, et puis une couple d'autres. Ici, juste pour expliquer un petit peu le contexte, on voit là ici, il y a des gens qui viennent voir les apôtres. Les apôtres sont à droite, et puis ça n'allait pas bien, il y avait un problème. Vous doutez un petit peu de c'était quoi? Il y avait des Juifs d'origine grecque que leur veuve recevait pas autant de nourriture que les veuves des Juifs d'origine d'Israël. Et là, ça faisait de la chicane. C'était tous des Juifs, mais il y en avait de différentes origines. Puis là, ça faisait une chicane. Fait que là, ils sont allés voir les apôtres ici, puis ils leur disent, ça marche pas l'affaire, nos veuves, il me semble qu'ils devraient en recevoir autant que leurs veuves. Ils vivaient une injustice. Et puis... là, on voit Pierre ici, là, ça réfléchissait. Non, c'est vrai, c'est important, ça n'a pas d'allure. Il faut qu'on fasse quelque chose, mais là, je pense pas, il me semble, que c'est à nous autres à régler ce problème-là. Mais c'est vrai, c'est un vrai problème. Vous vous souvenez de l'histoire un peu? Et puis, je trouve que c'était beau parce qu'il portait attention. Quand les gens se plaignaient, il disait pas « non, remets ça au Seigneur, non, prie un peu, puis tout ça. » Non, non, il dit « OK, c'est vrai, c'est important. » Et ce qu'ils ont fait... Dans le fond, on regarde l'histoire, hein? C'est facile, c'est le fun. Et mais que le Seigneur nous parle quand même par cette histoire-là. Et ici, notre apôtre Pierre, il dit, là, ça serait pas juste que nous, on délaisse notre travail. C'était quoi leur travail? Enseigner la parole de Dieu et évangéliser et, pardon? Et la prière. Hein? C'était l'enseignement de la parole de Dieu, parler de Jésus et la prière. Là, ça n'a pas d'allure que nous autres, on laisse ces tâches-là qui sont importantes pour s'occuper de la distribution aux tables. Ça aussi, c'est important. Mais là, il n'y a pas personne qui peut nous remplacer là pour faire l'enseignement. Nous autres, on était des disciples de Jésus. On connaît ce qu'il a dit puis tout ça. Fait que là, c'est pas correct qu'on délaisse notre travail. Donc, ils ont choisi combien de diacres? Sept personnes, sept gars, il y avait des critères, c'était rempli du et de... Oui, oui, non, de sagesse, c'est bon. J'entends, je pense que c'est Laurette. Laurette qui dit les réponses, Gilles les dit à voix haute. C'est Laurette, le cerveau de... J'ai-tu raison, Laurette, quand j'ai dit « j'entendais ta voix doucement »? Ah! Laurette, elle a sorti son livre de réponses, elle a ouvert l'abîme. Elle a toutes les réponses. OK, bon. Elle est très humble. OK, alors ici, on choisit donc sept hommes pleins du Saint-Esprit et de sagesse. Peut-être qu'on pourrait allumer quelques lumières pour ceux qui veulent suivre dans leur bîme et avoir les réponses. Et là, ils leur ont imposé les mains, ils ont prié pour eux, et puis c'est vraiment sept personnes spéciales. C'est vrai qu'ils étaient remplis du Saint-Esprit. Et puis là, ça allait bien avec ces gars-là, les problèmes, ça s'arrangeait. Et puis, les gens venaient au Seigneur. Puis là, on voit même des prêtres, des gens parmi les Lévites, qui venaient au Seigneur Jésus et qui croyaient. C'était beau de voir ça. Et ils se faisaient baptiser au nom de Jésus. Ça faisait des progrès. Et là, il est arrivé que notre ami Étienne, c'était un des sept. Hein, il y avait, là, sans regarder le nom des sept, non. Nicanor, Procor, Nicolas, Philippe, oui, c'est vrai, et puis Étienne, puis il y en a d'autres, OK? C'est pas ça qui est important. Mais là, si on parle d'Étienne un petit peu, c'est un gars que vraiment le Seigneur agissait par lui, puis c'était beau de voir ça. Et il imposait les mains, il y avait des guérisons, des prodiges qui s'accomplissaient. On voit ici notre paralytique guéri. Puis là, c'est sûr, ça parlait fort, les gens disaient, « Wow, tu sais, le nom du Seigneur Jésus est vraiment comme une tour forte, est vraiment puissant, est vraiment touche les gens. » Puis ça touchait les cœurs, c'est sûr. C'était des évidences incroyables. Mais là, il est arrivé des problèmes. Tu avais des Juifs ici, d'autres Juifs, là, ils n'étaient pas Grecs eux autres, ils venaient d'Afrique du Nord, à Jérusalem, et ils ont commencé à faire de l'argumenter un petit peu. Eux autres ne croyaient pas que Jésus était ressuscité. Puis là, ça a commencé à faire de la chicane. Mais le Saint-Esprit aidait vraiment Étienne, puis il y avait des réponses pour tout. C'était merveilleux. Il y avait des réponses, il pouvait les... Des répliques, il y en avait des répliques à toutes les objections. Et ça, est-ce qu'ils étaient contents, eux autres? Pas tout à fait. Ça les fâchait, parce que, justement, ils annonçaient avec trop de puissance ce Jésus ressuscité qui peut guérir encore, qui a une puissance, ça les dérangeait énormément. Et qu'est-ce qui est arrivé par la suite? C'est que là, il y a eu des manigances. Ils ont commencé à parler dans le dos et ils ont soudoyé des gens. Soudoyer, c'est comme les payer, les inciter à dire des mauvaises choses contre Étienne. Étienne parle contre Moïse. Étienne parle contre le temple. Étienne, il fait ci. Étienne, il fait ça. Et là, ça a commencé des raconteurs contre notre ami Étienne. Fait que là, ils ont capturé Étienne. Tu vois, les soldats sont venus, ils l'ont pris. Et puis, ils l'ont amené devant le tribunal, où est-ce qu'on avait les chefs. Et puis, notre ami Étienne était là, et puis là, il y avait encore, là, les manigances continuaient, ça continuait à raconter toutes sortes de raconteurs sur lui, à son sujet. Il parle contre Moïse, il parle que Jésus, celui de Nazareth, allait venir et puis détruire notre temple et le rebâtir en 3 jours. Voyons donc, ça n'a pas d'allure. Il parle contre nos traditions. Et là, les chefs étaient là, des Juifs, et puis, voyons, là, tout d'un coup, ils ont dit, « C'est-tu vrai ce que tu dis? » Puis ils ont vu comme son visage qui brillait, comme celui d'un ange. Jamais vu un ange, mais apparemment, ça brillait. Et là, c'était spécial, « Étienne, sais-tu vrai tout ce qu'on dit à ton sujet? » Fait que là, Étienne, il part une longue histoire, chapitre 6, chapitre 7, où est-ce qu'il dit, « Non, non, je crois tout ce que la Bible dit, tout ce que nos pères ont dit, mais c'est vous, Vous avez de la difficulté à croire toutes ces promesses-là qui annonçaient Jésus. Et votre cœur endurci, vous refusez de croire ce que les prophètes nous ont dit, ce que les promesses étaient là pour nous. Et là, c'est vous qui avez un problème. Et là, les gens n'étaient pas contents. Ils se faisaient accuser de ne pas avoir cru les promesses dans la Bible. Et c'est là que, je ne sais pas pourquoi, mais il y a une vision. Et là, il dit, Étienne, rempli du Saint-Esprit, fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Il voit ça, en plein dans l'interrogatoire, devant le tribunal. Et là, il leur raconte ça, parce qu'on ne peut pas cacher une histoire de même. Et il dit, voici, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Drette là, il leur partage ça tout bonnement. Ben là, c'était trop. C'était la goutte vraiment qui a fait déborder le vase. Ils blasphèment. Ils ont commencé à pousser des grands cris. Ça hurlait. Ah! C'est noir! Hein? Je ne peux plus entendre ça. Ils se bouchaient les oreilles. Et là, ils se sont garrochés sur lui et ils l'ont emporté hors de la ville pour lui régler son compte. Ils ont pris des grosses roches, ils l'ont lancé sur lui, puis ça s'est fait vite. Vraiment, pas eu le temps de te défendre, pas eu le temps de... C'est quand même un peu bizarre que cette vision-là soit arrivée, comme qui a précipité toute la crise. Peut-être qu'il aurait pu s'en sortir, mais pourquoi avoir reçu cette vision-là, puis que lui la partage tout bonnement? C'est quand même des épisodes qui font réfléchir. Tu sais, ce gars-là, c'était un méchant bon gars. C'est quand même plate, ce qui arrive. Et c'est ça. Ils l'ont lapidé. Il est tombé à genoux. Et puis, il avait prié une prière à genoux. Il avait dit, ne leur impute pas, ne leur mets pas ça à leur compte, ce péché-là contre eux. Il a prié pour ceux qui le lapidaient. Et puis, il avait dit qu'il remettait son esprit entre les mains du Seigneur. Et c'était le premier martyr chrétien. Ça, c'était l'histoire d'Étienne. Et c'est sûr que ça soulève des questions, je ne sais pas pour vous, mais tu te dis, c'est quand même plate, tu sais, c'est comme un gaspillage un peu. Pourquoi recevoir une vision qui va mettre sa vie en danger juste à ce moment-là? Il aurait pu la recevoir, sa belle petite vision, avant ou après. Comprenez un petit peu? J'essaie de me poser des questions, c'est pas pour être blasphématoire, mais c'est juste pour méditer un peu sur ça. Non, c'est quand même Dieu qui lui a donné cette vision-là à ce moment-là, parce que c'est ça qu'il fallait. Hein? C'est ça qu'il faut comprendre. Et... une question, pourquoi gaspiller la vie d'Étienne? Tu sais, c'était la jeunesse montante, la nouvelle génération. Et puis, voyons donc, tu sais, tu fais attention, là, c'était un jeune poulain, on pourrait dire, qui allait remplacer les vieux comme Pierre. On ne scrappe pas une vie de même. Pourquoi gaspiller sa vie? Est-ce que ça se pose, cette question-là? Il semble que la gestion des ressources humaines faisait défaut dans... On devrait améliorer le traitement de nos employés, de notre personnel. Pourquoi laisser les méchants réussir aussi? C'est une gang de croches. Ils ont fait des manigances, ils sont mis ensemble. Puis c'est ces gens-là qui venaient d'Afrique du Nord, puis ils auraient pu pas les laisser réussir, voyons, c'est pas juste. Pourquoi décourager les croyants et ceux peut-être qui s'intéressaient à Jésus? Là, quand ils ont vu ça, non, je pense que je vais bien penser à mon affaire, c'est peut-être pas pour moi ces histoires-là. Ça, c'est pas encourageant. Et là, c'est sûr comme de réfléchir, mais il doit avoir des raisons. Mais je soulève au moins la question pour qu'on puisse trouver les réponses à ces raisons-là qui doivent exister. C'est sûr, toutes ces questions-là, il doit avoir des bonnes réponses. Mais quand même, il y a quelque chose d'humain, de tragique là-dedans. On vient de perdre peut-être le plus beau, tu sais, la jeunesse là, qui aime le Seigneur. C'est comme c'était à l'église de Gatineau qu'il y avait dans une réunion de la jeunesse, de fin d'année, la dernière réunion, ils s'étaient réunis dans une famille. Ça, c'est au début de l'été. Puis là, il y a un jeune qui s'est noyé en plein dans la réunion de groupe de jeunes. Il s'est noyé dans la piscine. Ses parents étaient partis pour le mariage de leur fille. Puis là, il appelle, « Hey! » Puis là, comment c'est ça? Comment consoler sa famille à Étienne? Tragédie qui est arrivée. C'est quoi le game, Seigneur? C'est quoi l'idée, là? Vraiment, je te suis plus. Comme pour ce jeune-là qui décède dans le groupe de jeunes, tu sais, ça laisse plein de questions. Ça nous laisse déroutés. Fait que, mais laissons-nous imprégner par ça, parce qu'il doit avoir des bonnes réponses, quand même. Mais c'est heurtant. Laissons-nous heurter, puis ça va nous mettre sur le chemin de trouver des réponses. C'est bon? Et là, l'histoire finit pas là. Ben, tu sais, il y a d'autres histoires. Juste de penser, quand même, peut-être des petits éléments de réponse. Dieu le sait. Et puis, bon, ce n'est pas le même contexte dans Matthieu 6, ça dit « Votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. » Juste de dire « Hey, il sait tout. Je ne sais pas pourquoi, mais lui, il sait. Il sait que ça fait de la peine, ce garçon-là qui est mort dans la piscine, Étienne, qui était une étoile montante de témoignage pour le Seigneur qui décède. Mais il y a eu l'occasion de témoigner aux responsables que Jésus était plus important que la vie. » OK, c'est pas rien. C'est important comme témoignage, comme de faire ressortir ça. Jésus est plus important que la vie. Sa foi éprouvée a glorifié Jésus. Ça dit dans Pierre que notre foi, c'est comme plus précieuse que l'or qui est éprouvé par le feu, que notre foi aussi est éprouvée, que ça aura comme résultat la louange, la gloire et l'honneur. Mais donc, c'était dans l'équation pour Dieu que sa foi a été éprouvée et que ça a glorifié Jésus. Son message a forcé chacun à se positionner face à Jésus. Paul était là, approuvait, ça dit, le meurtre d'Étienne. Il gardait les manteaux de ceux qui lapidaient Étienne. Et Paul, par la suite, a été de maison en maison pour arracher les croyants et les amener devant les tribunaux. Mais Paul a vu ce meurtre-là, Paul a vu la prière d'Étienne pour ses bourreaux. Peut-être qu'il y avait... Et puis là, chacun se positionnait, hein? T'étais en faveur ou t'étais contre? Allais-tu oser t'opposer à ce meurtre-là, à cette lapidation-là? Allais-tu aussi prendre une roche ou allais-tu dire dans ton cœur, « Ben, tant bien bon pour lui. » Mais chacun était comme forcé à se positionner. Et puis, pour Dieu, c'était pas perdu, c'était pas inutile. Mais on continue l'histoire avec un autre, Philippe, un autre des sept diacres. Et là, lui, il a des belles aventures. C'est différent, son histoire. Et là, il s'en va, lui, à Samarie. Là, comme on disait, il y avait persécutions. Et là, on voit ici plusieurs chrétiens qui quittent Jérusalem. Seulement les apôtres sont restés là, ils faisaient un beau bye-bye. Ils s'en vont, pourquoi? Parce que là, c'est rendu dur à Jérusalem. Il y a beaucoup de persécutions. Et à Jérusalem, il y en a qui s'en vont à Samarie. Samarie, c'est chez les Samaritains, c'est la capitale de Samarie. La province, on pourrait dire, de Samarie, la ville de Samarie. Et là arrive notre ami Philippe, qui commence à leur parler du Seigneur Jésus. encouragé, un beau zèle, comme Étienne. Dans le fond, les deux, c'était rempli du Saint-Esprit et de sagesse. C'était tellement beau ce que Jésus a fait, il leur partage. La suite de l'histoire, et même il guérit. Il opère des guérisons. Puis les gens étaient touchés de voir ces guérisons-là. C'est dit, lorsqu'ils apprirent les foules et virent les miracles qu'ils faisaient, car des esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques en poussant de grands cris, c'est difficile de cacher ça, et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Ça aussi, ça attirait l'attention. Donc, Philippe, un autre diacre, à peu près copier-coller Étienne, mais lui, tout d'un coup, lui a du succès. Étienne, ça ne marche pas. Peut-être jour 2, jour 5, tué, lapidé. Lui, tout va bien. La vie lui sourit. Les miracles ici à Samarie, des conversions, les gens, il y avait même ici Simon, le magicien, qui commençait à croire. Lui, avait aussi épaté le peuple par ses prodiges, mais quand il a vu Philippe, il suivait Philippe pas à pas comme ça pour voir, mais c'est quoi cette puissance-là? Lui, on disait que c'était la grande puissance, mais lui-même a cru en Jésus, s'est fait baptiser, même Simon, le magicien. Et puis, ici, on le voit, notre ami Simon le magicien. Et puis là, les apôtres, à Jérusalem, ont entendu parler de ce qui se faisait à Samarie. Et ça les a beaucoup... c'est merveilleux, qu'est-ce qui se passe? Ils ont dit, il faut qu'on aille voir ça. Et on voit ici Jean et Pierre qui viennent voir les Samaritains pour voir, checker ça un petit peu, toutes les belles choses qu'on entend, parce que c'était comme pas normal. Avant, tous les croyants, c'était juste des Juifs. Et là, on commençait à avoir des nouveaux qui s'appelaient des Samaritains. Ce n'étaient pas des Juifs. Mais peut-être, Seigneur, Jean disait, le Seigneur nous a préparés. Rappelez-vous, quand il avait été, il fallait qu'il passe par ce village-là, à Sichar. Et là, il voyait la Samaritaine. Et la Samaritaine, ensuite, a parlé à tout son village. Le village est tout venu. Ils sont restés quelques jours là-bas. Plusieurs ont cru. À elle, la Samaritaine, il avait révélé que c'était lui le Messie. Fait que peut-être que les Samaritains aussi, ça marche. Ces promesses-là qu'on a reçues, c'est peut-être aussi bon pour les Samaritains. Fait que là, ils s'en vont voir ça. Et puis, ils prient. Tu vois ici, ils sont en train de prier pour nos amis Samaritains qui reçoivent le Saint-Esprit. Mais là, on a notre personnage de Simon le magicien, que là, il trouve ça bien fantastique, lui. « Hey, tu peux imposer les mains comme ça, puis les gens reçoivent le Saint-Esprit. Moi, là, ce tour de magie-là, je le veux. J'en veux un comme ça. Je te donne de l'argent, beaucoup d'argent, si tu veux, mais donne-moi la capacité de pouvoir imposer les mains pour que les gens reçoivent le Saint-Esprit. C'est trop merveilleux. » Et là, Pierre, il dénonce. Il voit, non, écoute, t'es pas correct, toi. T'es pas correct. T'es lié par l'amour de l'argent, par des liens, par une impureté. Et il dénonce ce qui se passe là. Et il dit, prie pour que Dieu te protège, te pardonne, parce que tu n'as ni part ni lot dans cette affaire. Ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Repens-toi donc de ta méchanceté et prie le Seigneur que la pensée de ton cœur te soit pardonnée, car je vois que tu es dans un fiel amer et des liens d'iniquité. Oups! Et là, ça n'a pas tourné comme Simon pensait. Il a dit, priez vous-même afin qu'il ne m'arrive pas ce que vous dites. Et là, finalement, c'était la fin de l'histoire de Philippe dans cette ville-là. Et puis là, il s'en va dans une autre histoire. Ça continue son affaire. Ça continue à bien aller. Et là, on le voit, des aventures avec un Éthiopien. Dans le fond, ça ne fait que bien aller pour Philippe. Là, l'Esprit lui dit, « Va-t'en sur un chemin qui est désert. » Il n'y a pas personne, je sais, de Jérusalem à Gaza, il n'y a pas personne qui se promène par là. C'est super tranquille. Vas-y là-bas. Quitte Samarie où ça va très bien et va sur un chemin désert où je t'envoie. OK. s'en va sur le chemin désert et rencontre ce chariot-là. Puis entend une voix qui lisait des textes de la Bible. Et puis, notre ami ici, c'était un responsable de la reine d'Éthiopie, celui qui gérait ses trésors, et puis qui lisait un texte de la Bible. Et là, notre ami Philippe lui dit, « Mais là, est-ce que tu comprends ce que tu dis? » Et là, ça parlait comme l'histoire que Gilles nous a partagée d'un agneau qui... c'était quoi le vrai texte, là? Il lisait le prophète Ésaïe. Et là, donc, Philippe lui dit, « Comprends-tu ce que tu lis? » Il dit, « Comment je pourrais comprendre si personne ne m'écoute? » Il dit, « Monte, monte avec moi, et puis viens t'asseoir, explique-moi un petit peu ce que je suis en train de lire. » Tu vois, il est assis avec, et Philippe va continuer à lui expliquer, mais le passage qu'il lisait, vous le reconnaissez très bien, hein? C'était comme une brebis qu'on mène à la boucherie. Un agneau muet devant celui qui le tond, il n'a point ouvert la bouche. Et là, ça continue, regardez bien, ici. Dans son humiliation, son jugement a été enlevé et sa postérité qui la dépeindra, car sa vie a été retranchée de la terre. Et là, notre Éthiopien, il dit à Philippe, « Mais de qui est-ce qu'on parle? Explique-moi, est-ce qu'on parle du prophète qui va être comme un agneau? » Ou de quelqu'un d'autre. Et là, en commençant par ce beau texte-là de l'agneau, que ça faisait pas tellement longtemps, que justement, ça venait d'arriver à Jérusalem, là, c'était peut-être, c'était même pas là, il n'y en avait pas 40 générations de 50, il n'y en avait même pas un. C'était, ça fait pas tellement longtemps, ça fait peut-être quelques mois, à la dernière Pâque, que tu as manqué ça, mon homme, parce que l'agneau de Dieu avait été sacrifié, que cet agneau-là sacrifié, tu vois, comme les agneaux qu'on offrait dans le temple, quand on offrait un agneau, on venait, on mettait les mains sur la tête et on confessait nos péchés. Oui, je pense que j'ai volé quand j'ai pas payé les taxes sur ça. Et puis, j'ai pas été très gentil avec ma femme, et j'aurais dû m'excuser quand j'ai dit ça à mon garçon. Bon, je confesse mon péché, et je l'ai transféré sur la bête. Et là, on tuait la bête, et c'était l'innocent qui mourait pour le coupable, en portant à sa place les péchés. Mais cet échange-là, c'est ça que Jésus a fait pour nous. Tous nos péchés ont été portés par cet agneau que Dieu avait donné, qui avait une vie parfaite, et pouvant porter la pénalité à notre place pour tous nos péchés. Il explique ça à l'Éthiopien, qui lui, il dit, c'est merveilleux, il jase de tout ça, et puis là, tout d'un coup, il voit de l'eau. « Hey, hey, regarde, il y a de l'eau ici, là. » Il dit, « Qu'est-ce qui m'empêche, moi, d'être baptisé? » Puis là, c'est sûr, ça donne une compréhension un petit peu du baptême que les autres voyaient. Le baptême, c'était par immersion. C'était pas, tu sais, ça aurait été facile de prendre quelques gouttes d'eau, tiens, je te baptise, mon homme, et puis vas-y comme ça, c'est beau. Non, non, là, il voit de l'eau, qu'est-ce qui m'empêche, moi, d'être baptisé? Ben, moi, je suis pas juif, mais je suis même pas samaritain. Et là, Jésus, si tu crois dans ton cœur, Philippe, il dit, moi, je vois pas de problème. Et puis, let's go, drette là. Puis là, Philippe, il devait se dire, écoute, là, c'est Saint-Esprit qui m'envoie là-bas, d'abord. Deuxièmement, là, tu sais, je trouve en plein le gars sur un chemin désert en train de lire en plein le texte qui parle de l'agneau de Dieu qui est mort à notre place. Le gars se convertit d'être là sur place. Fait que, tu sais, ça ressemble vraiment à arrangé par le Seigneur. Ah ouais, on baptise. Juif, pas juif. Puis moi, je m'en fâche pas d'un fleur du tapis, comme on dit. Fait qu'il baptise notre ami. Si tu crois qu'en Jésus, qui est ressuscité des morts, il n'y a pas de problème, on te baptise. Donc, il baptise notre ami l'Éthiopien, puis je trouve ça vraiment beau, tu sais, que, écoute, ce gars-là, il cherchait la vérité, et Dieu l'aimait. Dieu s'est organisé pour que sur un chemin désert, il envoie son serviteur, Philippe. Il dit, non, non, Philippe, lâche Samarie, là, je sais que ça marche bien. Va ici, il y a quelqu'un qui me cherche. Et là, la lumière vient dans son cœur. Il comprend, il reçoit ça. Un Éthiopien de l'autre bout du monde qui reçoit Jésus, qui est converti. C'est pas beau, ça? Que Dieu multiplie même ici, hein, parce qu'on est comme des Éthiopiens, nous autres. On n'est pas des Juifs. On est des gens de l'autre bout du monde. Mais que Dieu touche des cœurs. Il fait baptiser drette là. Et puis là, tout d'un coup, l'Esprit enlève Philippe. Et puis, l'Éthiopien continue plein de joie son chemin. Ça dit, tandis que joyeux, il poursuivait sa route. Quelle joie, quel cadeau. Et puis là, on pourrait se dire, pourquoi Philippe a du succès comme ça? Dans toutes ses aventures. Contrairement à Étienne, tout semble lui réussir et il semble divinement béni. Hein? Je sais bien que c'est pas ça la leçon, là, mais on regarde quand même les leçons. On n'est pas bête. On se dit, ouais, mais tu sais, il me semble que c'est pas tout à fait équitable. C'est vrai? C'est pas équilibré. C'est pas juste. Ça soulève des questions. Mais on a le temps, puis c'est juste le fun, hein, c'est l'été. On va continuer à regarder d'autres histoires et à se poser d'autres questions. Là, on va regarder l'histoire de Jacques, qui lui a été tué, et Pierre, qui a été libéré de prison. Hein? Cherchez à comprendre. Et là, ça dit dans la Bible que le roi Hérode, là on voit ça, lui ici qui est couché, c'est Jacques, le frère de Jean, un des 12. Pas là, pas un diacre. Non, il y en avait juste 12 apôtres. Là, c'est un des 12. Okay. Hérode le prend, il se mit à maltraiter quelques membres de l'Église et fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean, sans procession, sans difficulté. Okay. Et là, ça fait plaisir aux gens. Les Juifs étaient super contents de voir ça. Certains chefs juifs, « Hey, Jacques n'est plus là, un des 12, on continue, on s'en débarrasse. » Fait que là, ils ont fait capturer qui? Pierre. Il dit, lui aussi, c'en est un des 12, ça a l'air de plaire aux Juifs, on continue. Mais là, c'est pas la même chose. Jacques, lui, il meurt comme ça, mais Pierre, il l'a mis en prison. Et puis, il l'a mis sous escorte, parce que là, lui, il avait des tours de passeport. Il était déjà sorti de la prison avant, quand c'était les Juifs qui l'avaient mis en prison. Fait que là, il a mis 4 groupes de 4 soldats postés, puis il y avait des chaînes sur des soldats, dans une prison, devant des gardes, puis il y en avait d'autres gardes, puis d'autres gardes, puis d'autres gardes, des groupes de 4. On se laissera pas, on se fera pas poigner ce coup-là. Et là, on va le garder, lui, après la Pâque. Et puis, on va faire un petit spectacle. Ça va faire plaisir au peuple juif. On va faire son procès. Et là, donc, ça allait mal. C'était vraiment difficile. Et nos amis chrétiens, nos frères, nos sœurs, s'appriaient intensément pour Pierre. « Permets pas ça, Seigneur. » Pas l'apôtre Pierre. On a besoin de lui. Pourquoi est-ce que tu ne nous défends pas? Libère-le. Et puis là, ça priait. Ça n'arrêtait pas de prier. Et puis là, il y avait des cellules un peu partout. Et puis là, ça priait intensément pendant plusieurs jours. Je pense que c'était comme peut-être 8 jours. Tu sais, après la fête de la Pâque, ça dure un bon bout de temps, la fête de la Pâque. L'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Et c'est quand même beau. De prier comme ça intensément, quand tout d'un coup, c'était la veille, là, où est-ce qu'il aurait été en jugement. Pendant la nuit, alors que Pierre dormait, l'ange l'a réveillé, ça dit qu'il a donné un coup d'un côte. « Hey, Réveille. Lève-toi. Et là, comme ça, les chaînes tombent. Et puis on voit les deux gardes ici, qui, bon, ils dorment, c'est normal, mais ils s'aperçoivent de rien. Et puis ça, l'ange dit, « Ah ouais, mets tes sandales tout de suite, puis ton manteau. Let's go, on s'en va. Okay. » Il dormait encore. Et puis là, et tu vois, les autres s'arroupillent encore. Ça. Ça devait ronfler, hein? Imagine des gros gars comme ça. Pas moyen de dormir. Surtout quand le lendemain, tu vas peut-être, tu sais, ce qui est arrivé à Jacques va probablement t'arriver aussi. Mais lui, il dormait assez solidement. Et là, bon, ça va comme dans un rêve. Ah oui, on se lève. La porte s'ouvre, let's go. Il y avait des quatre qui étaient là. Et puis là, ils passent par une autre porte. Puis quatre autres gardes qui sont là, ils ne voient rien. Et puis, tout d'un coup, la porte de fer qui mène à la ville s'ouvre d'elle-même. Et puis, l'ange disparaît. Là, il dit, c'est vraiment Dieu qui m'a libéré. Et c'est merveilleux, gloire à Dieu. Il s'en va, il pense à la maison de Marie, la mère de Marc. Il dit, il y a beaucoup de chrétiens qui sont là, sûrement, là, qui doivent prier pour moi. Je vais aller les voir. Il cogne, puis là, ça raconte comme une gaffe de la fille. Je ne sais pas pourquoi, la pauvre Rod, sa gaffe est... Fait que là, Rod, elle entend la voix de Pierre, elle est toute énervée, puis tout ça, puis elle oublie d'ouvrir la porte. Hein? C'est quand même particulier. Je ne sais pas pourquoi la Bible nous raconte ça. C'est peut-être pour dire, faites-vous-en pas quand vous faites des gaffes, il y en a d'autres qui en ont fait d'avant. Et là, elle dit, c'est Pierre, j'ai entendu sa voix. Là, c'est quoi, eux autres? Ils sont super spirituels, c'est sûr, c'est des gars, tu sais. Il dit, t'es folle. C'est, ça doit être son fantôme. Tu sais, il priait pour ça intensément, et puis il n'arrive même pas à croire que Dieu répond à leur prière. Mais là, Pierre, il varge sa porte, ah ouais! Puis, ouvrez-moi! Puis là, il dit, ah, Dieu a vraiment fait... Dieu a vraiment répondu. Et c'est sûr que, tu sais, on peut se poser la question, pourquoi est-ce que Dieu a fait ça? Pourquoi est-ce que Dieu a répondu? Ça nous parle, ah, Dieu est merveilleux. Dieu répond aux prières. Dieu est puissant. Quand on arrive au bout de nos limites, Dieu est capable. Mais là, il faut se souvenir aussi que il y avait Jacques. Jacques, il est mort. Est-ce qu'on dit que Dieu est en contrôle, Dieu est capable, Dieu dépasse nos limites et Dieu répond à nos prières? Oui, mais Jacques est mort. Puis lui, ça va bien. C'est difficile à comprendre. Hein? C'est comme un deuxième exemple de contraste. On a vu deux diacres, puis là, on voit deux apôtres. Un, on pourrait dire traitement fiasco, l'autre, traitement royal. Hey, tout est beau. Seigneur est vivant. Puis là, des fois, on focus juste sur les beaux traitements royaux. Dieu répond aux prières, tu vois comme il... Mais on oublie que, des fois, il y a d'autres. Et puis, je pense que le Seigneur veut qu'on sache qu'il est puissant, qu'il est en contrôle, qu'il sait, qu'il répond aux prières. Il veut qu'il sache ça. Mais des fois, il veut aussi qu'il sache que, écoute, j'ai mon idée en tête. Fais-moi confiance. Et toi, là, je veux que tu avances par la foi. Vous vous souvenez un petit peu, là, comme Pierre, quand il avait trahi le Seigneur, puis là, il était voir Jésus, qu'il l'avait revu sur le rivage après avoir multiplié les poissons. Puis il regarde Jean, et lui, qu'est-ce qui va y arriver? Puis Jean, Jésus, il dit, c'est pas de tes affaires. Que t'en semble. Si je veux qu'il demeure jusqu'à la fin, qu'est-ce que ça te fait? Fait que j'ai un programme pour lui, pour Jean, puis j'ai un programme pour toi, Pierre. Puis là, écoute, ça, c'est pas de tes affaires. Et quelque part, c'est comme si on a besoin de réfléchir un petit peu qu'il y a différents programmes. Il n'y a pas juste le programme Pierre, victorieux, Puis quand tu es béni, là, puis quand tu es proche du Seigneur, Dieu répond à tes prières. S'il ne répond pas à tes prières, puis tu meurs, puis tu es tué comme ça, tu n'es pas proche du Seigneur. C'est pas ça l'idée. C'est comme s'il nous présente les deux, fidèles, remplis du Saint-Esprit et de sagesse, mais que Dieu peut choisir autrement et qu'on peut avoir aussi des épreuves dans notre vie. Alors, c'était un petit peu pour penser à ce défi-là, que des fois, on s'est créé des attentes. Comme je disais, que si ça va bien, c'est que Dieu me bénit. Si ça va pas bien, ben là, j'ai peut-être un problème. Non. C'est pas ça. Et je pense qu'il faut réviser nos attentes pour adopter tout ce que la Bible nous dit. Et puis, j'aimerais ça qu'on regarde. C'est dans 2 Timothée, chapitre 2, verset 3, où est-ce que Paul y présente trois images. Paul, tu sais, c'était l'apôtre senior qui parlait à Timothée, un jeune qui commençait, et lui présente, là, c'est quoi les attentes selon Dieu pour ta vie chrétienne. Et de s'accorder avec ce que le Seigneur a pour nous. Et que des fois, oui, ça peut être comme Étienne qui est mort comme ça, et ça fait, ça sollicite notre foi. Tu as besoin de pas mal de foi pour passer des moments d'épreuves comme celle-là. Et Paul disait à Timothée, « Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. » Ça devrait faire partie de tes attentes. Puis là, on voit notre gars ici, il passe par des moments durs où sa foi est éprouvée. Mais il dit ça fait partie du programme. Ça fait partie des attentes possibles, des possibilités pour toi. Et ça continue, ça dit, « Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. » Je ne pense pas que ça veut dire ici, écoute, il ne faut pas que tu aies de job, il ne faut pas que tu aies de famille, il ne faut pas que tu aies de vacances. Ça, c'est les affaires de la vie, là, il ne faut pas que tu t'en occupes. Non. Paul a eu une job comme faiseur de tente, mais il ne fallait pas que ça vienne embarrasser, je pense que c'est ça. S'embarrasse des affaires de la vie. Il y a des nécessités de la vie, mais ça, c'est secondaire pareil. Et puis, donc, comme soldat, c'est peut-être de se questionner, est-ce que je me vois possiblement comme un soldat et dans ce rôle-là, parce qu'il y en a trois, on va voir trois images. Dans ce rôle-là, ça se peut que j'aille à souffrir. Puis est-ce que je suis prêt à accepter ça et de ne pas m'embarrasser des affaires de la vie que peut-être que je perdrais? Ma santé, je pourrais peut-être la perdre. Mais ceux qui me sont chers, je pourrais peut-être les perdre. Tu vois ici notre ami qui, c'est pas à l'honneur, tu sais, de son régiment, de son chef d'armée, de son général. Qu'est-ce que tu fais là comme soldat? C'est pas ça ta job. J'ai trouvé celle-là un peu comique ici, c'était des soldats américains qui s'amusaient, tu sais, une gang de fous qui jouaient comme s'ils étaient des sorcières là, sur des balais, ils ont sorti tous les balais, tu sais, l'affaire de Harry Potter, là. Fait que là, ça niaisait, ça déconnait, tu sais, comme des... Hey, là, t'imagines le général qui rentre. Hey! Tout le monde, là, tu sais, dans vos baraques. Puis, inspection tout de suite. Puis, non, on niaise pas de même, là. C'est pas pour ça que je vous engage, puis que je vous paye, puis que... Dans un service, c'est dans l'armée. L'armée américaine. Puis, c'est quoi ces niaiseries-là? Puis, donc, qui s'embarrasse des affaires de la vie, puis le joke, le fun. Ouais, peut-être qu'il en faut des distractions des fois. Mais il donne le ton quand même. Il dit, écoute, tu as cette image-là d'un soldat qui a à souffrir. Rentre ça dans ton équation parce que ça fait partie de la vie. Puis il continue, et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Puis là, je vais vite un petit peu, mais il y a toutes sortes de règles, de marcher dans la sainteté, dans la justice. Puis c'est comme celui qui veut être ancien, qu'il soit hospitalier, qu'il ne soit pas adonné au vin, qu'il ne soit pas colérique, qu'il ne soit pas violent. Tu sais, il y avait un tas d'attentes envers nous. Puis c'est, des fois, c'est difficile. Non, je n'ai pas le droit de faire ça. Moi, non, je n'irai pas. Non, ce n'est pas ma place. Et puis, je me garde pour le Seigneur, comme un athlète, tu sais, qui se prive d'un tas d'affaires, puis qui non, moi, j'ai mon régime. Puis, non, je pourrais, là, tu sais, c'est des poutines, c'est bon, mais non, c'est pas... parce que j'ai des attentes plus élevées. Fait qu'il faut qu'il combatte selon les règles. Qu'il soit pas avec une force charnelle de sa propre persuasion, mais que non, par la force du Seigneur, par la prière. Et puis sinon, c'est la déception. Il n'a pas combattu selon les règles. Non, ça compte pas. Ça, là, tu as perdu ton point. C'est just too bad. Et puis, une troisième illustration, c'est il faut que le laboureur... Fait qu'OK, il dit, pense là dans ton équation de la vie chrétienne que tu peux être soldat qui souffre, athlète qui a des règles, et puis laboureur. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Et puis peut-être que, si on dit Jacques avait plutôt l'option d'un soldat, lui est mort avec les dangers que ça comporte, puis Pierre, lui, c'était plutôt la job de laboureur. Parce que c'est long, c'est pas facile, tu travailles, tu vois pas, ça pousse, il me semble, ça pousse pas vite. Puis les mauvaises herbes, puis les combats, puis la chaleur, puis tout ça, avant de voir le fruit. Et Pierre, peut-être que c'était un appel dans ce sens-là. Son appel était différent. Et puis, ce que je me disais, tu sais, il n'y avait pas comme l'option, tu sais, souffre avec moi comme un soldat de Jésus-Christ. N'aie pas peur de ça. Et puis, comme un athlète. Il disait pas comme, il n'y avait pas comme un touriste. Non, ça, c'était pas une option. Comme un spectateur qui vient à l'église. Non, ça, ce n'est pas une option. Comme un retraité. Non. C'est comme un soldat, comme un athlète, comme un laboureur. Fait qu'il y a forcément soit la persévérance, soit des règles à rencontrer, ou soit des souffrances, des défis. Sans travail... Rien ne pousse à part les mauvaises herbes. Et puis, ce verset-là aussi, comme un laboureur, comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun, c'est tout le monde, quiconque, chacun, de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Là, je vais prendre mon petit laser. Chacun, mettre au service des autres les dons qu'il a reçus. Que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Hein? C'est comme le laboureur. Écoute, je peux pas rester à la maison là, pendant qu'on travaille dans le champ. Non, non, toi aussi dans le champ. Puis d'aller... Oui, c'est fait chaud dans le champ, puis des mauvaises herbes, puis c'est fatigant, puis tout ça. Oui, mais c'est ça. C'était comme les trois options. Même mieux être laboureur que d'être soldat. Mais, et là, il dit que chacun, il met du sien, que chacun s'emploie. Donc, peu importe, qu'il nous arrive peut-être quelque chose comme Étienne ou quelque chose comme Philippe, de se donner, on a différents appels, ça peut sembler injuste, incompréhensible pour nous, le Seigneur le sait, rendons-lui grâce. Prenons, je pense qu'il y avait une joie à Étienne dans cette grâce-là qu'il y avait de rendre témoignage pour Jésus, même si ça lui amenait la mort. Et la plus grande joie qu'on peut avoir, c'est d'être dans l'endroit où est-ce qu'il nous a donné, de mettre nos dons au service les uns des autres. Je pense qu'on va finir ici. On va prier et puis on va chanter le chant « Béni soit ton nom ». C'est « Quand tout va bien ». Mais il y a aussi dans le sentier de la souffrance, quand l'épreuve vient, c'est inspiré de Job qui dit que le nom de l'Éternel soit béni. L'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que le nom de l'Éternel soit béni. Avant qu'on chante, on va prier. Seigneur, comme je mentionnais des fois pendant l'été, c'est facile de perdre nos repères, de se laisser distraire par la course qui est devant nous, par les défis que tu places devant nous. Seigneur Jésus, on veut vivre pour toi, on veut t'appartenir, on veut t'être fidèle, on veut répondre à ton appel. Ravive-nous, Seigneur. Rafraîchis nos cœurs, notre zèle. Donne-nous un réveil. Renforcis nos genoux, nos jambes pour qu'on court la course avec une joie dans le cœur. Renouvelle-nous, Seigneur, par ta grande puissance, dans le nom de Jésus. Amen.